Chapitre 16. L'horloge sonnait 5 heures quand Clarence King arriva chez les Hay. C'était un homme corpulent de 51 ans qui n'avait plus le physique athlétique de sa jeunesse. Coiffé d'un grand béret, il portait une veste et des knickers en velours côtelé et limé avec de hautes chaussettes de laine.
« Votre vieux costume de voyage européen !»
s'écria John Hay prenant la main de son visiteur entre les siennes.
« Vous repartez à l'étranger ?»«
Non, à moins que vous ne considériez le Mexique comme l'étranger !»
répondit King en riant d'une voix que Henry James jugea aussi veloutée que son costume, et aussi fatiguée.
« Je me trouve de passage à Washington sans rien d'autre à me mettre sur le dos, et je savais que mes plus vieux amis ne me tiendraient pas rigueur de ma tenue. Considérez qu'il s'agit d'un hommage tardif à Saint-Patrick.
Vous auriez été le bienvenu dans cette maison, même avec votre pantalon de cow-boy et vos chaps, Clarence, dit Hay.
King retira d'un geste vif son immense béret pour le tendre au domestique qui attendait. James remarqua que le front de Clarence King s'était beaucoup dégarni depuis la dernière fois qu'il l'avait vu, et que ses cheveux gris avaient remplacé ses anciennes longues boucles blondes. King portait encore la barbe bien taillée à la Ulysses Grant, depuis longtemps passée de mode chez les jeunes gens. Entre le costume de velours côtelé, la barbe et l'embonpoint, l'explorateur n'était pas sans rappeler les portraits de Henri VIII. Une remarque, songea soudain James, que d'autres s'étaient sûrement déjà faites le concernant. James regarda Clara Hay étreindre et embrasser le vieil ami de la famille avec un enthousiasme de jeune fille qui ne lui ressemblait pas.
« Très chère Clara, » s'écria King, « vous demeurez le plus fidèle et le plus éclatant rayon de soleil dans la sombre vie d'un vieil homme. Comme vous le savez bien, à cause de vous, j'ai perdu tout intérêt pour les autres représentantes de votre sexe, » dit-il, jetant un coup d'œil malicieux à John Hay.
« Je suis voué à rester célibataire pendant le peu de temps qu'il me reste à vivre et n'attends plus que la crémation, ma seule perspective de connaître une expérience nouvelle. »«
Oh !»
s'exclama Clara Hay, tapotant la manche en velours de King.
« Harry, ma parole !»
s'exclama King, serrant la main de Henry James avec animation.
« De la bande, Adams était jusqu'ici en tête de notre course à la calvitie, mais je vois que vous et moi tenons la corde. » Qu'est-ce qui vous a fait sortir du brouillard londonien pour rentrer aux États-Unis?
D'abord et avant tout, cette chance de revoir de vieux amis,
répondit doucement James, retirant sa main en résistant au désir de la frictionner pour refaire circuler le sang.
Permettez-moi de vous présenter un compagnon de voyage, Monsieur Ian Sigerson. Monsieur Sigerson, voici l'original et inimitable Clarence King.
King lui serra la main, puis recula d'un pas dans la vaste entrée, comme pour mieux l'inspecter.
Sigerson? Jan Sigerson? L'explorateur norvégien? Celui-là même qui, il y a 2 ans, s'est aventuré plus loin dans l'Himalaya qu'aucun homme blanc avant lui?
Holmes hocha la tête humblement.
Parbleu, monsieur!
Dit King d'un ton tonitruant.
C'est un honneur et un plaisir de vous rencontrer. J'ai un millier de questions à vous poser à propos de l'Himalaya et du pays interdit où vous avez réussi à entrer. Alors que je gaspillais ma jeunesse à gravir les taupinières de ce continent, vous, monsieur, exploriez les vraies montagnes.
Seulement par les cols les plus modestes, monsieur King,
répondit Holmes avec son léger accent norvégien. Sa moustache sombre paraissait plus fournie ce soir, et James se demanda s'il y avait fait quelque chose.
Et encore, je m'y suis rendu à dos de poney.
Entrez dans le salon, King,
proposa John Hay, manifestement ravi de voir son ami. Mais James remarqua autre chose chez leur hôte, de l'embarras devant l'accoutrement du visiteur, quelque affaire en cours et probablement indicible entre eux, une dette peut-être. Aussi corpulent et rougeau que paraisse King au premier regard, une inspection plus attentive suggérait qu'il avait récemment souffert de maladie, peut-être d'une maladie grave.
« C'est l'heure du thé !»
s'exclama Clara Hay. Clarence King eut un sourire presque triste.
« Ah, ça me rappelle le bon vieux temps, Clara. » John, qui quittait le département d'État de bonheur, préférant abandonner la nation à son triste sort plutôt que de rater le thé de 5 heures. Et Adams, qui passait un front pâle hors de son bureau à 5 heures précises, rien d'autre n'aurait pu le détacher de ses vieux livres verts auxquels il était attaché comme une lamproie. Et Clover ? Clover qui riait et nous entraînait dans la pièce où les petits fauteuils de cuir rouge nous attendaient près de la cheminée.
Semblant remarquer l'effet produit sur son auditoire par cet éloge funèbre, King adopta aussitôt un ton et une expression plus gaie.
« En fait, John, j'espérais que nous pourrions exceptionnellement troquer le thé contre votre Xérès cet après-midi. »«
Vos désirs sont des ordres, » répondit Hay, entourant King de son bras pour l'entraîner vers le salon. « Vos désirs sont des ordres. »
Alors qu'il sirotait son thé, il préférait attendre un peu pour le Xérès, Henry James se remémora à quel point les cinq de cœur étaient de petite taille. Avec son 1m70, Clarence King était le plus grand du groupe. Après un moment de bavardage amical, Hay se demandant si Clarence King était en partance pour quelques mines de diamants dans les Andes ou une mine d'or dans les rocheuses de l'Alaska, ce à quoi l'autre répondit, ni l'une ni l'autre, une mine d'argent au Mexique. King interrogea Holmes sur les sommets de l'Himalaya. Holmes répondit, quoique de manière évasive, puis les deux hommes se lancèrent dans une discussion sérieuse sur l'exploration. James attendait l'inévitable révélation que Sherlock Holmes était incapable de faire la différence entre un sommet himalayen et une colline du Herefordshire.
« J'ai lu votre livre, » dit le prétendu Ian Sigerson d'un ton presque timide à King. « Escaladé dans la Sierra Nevada. Il m'a beaucoup plu. »«
Ah, ce vieux bouquin !» dit King en riant. « Il date de plus de 20 ans. »
Il est complètement dépassé, et la moitié des chapitres concernent ma période pléistocène précoce autour de l'été et de l'automne 1864. Mais dites-moi, monsieur Sigerson, avez-vous apprécié la partie où j'ai décrit la conquête du mont Whitney?
Sherlock Holmes se contenta de sourire.
Allons, Clarence,
intervint John Hay.
J'ai consacré 2 chapitres à décrire mon ascension du mont Tyndall,
tonna King.
La moitié du livre a raconté mes courses sur d'autres sommets de la région du Yosemite. Mais 2 propositions subordonnées m'ont suffi à évoquer mon triomphe au sommet de l'imposant Mont Whitney.
Tous les pics ne sont pas accessibles à la première tentative, dit doucement Holmes. King rit et hocha la tête. Il précisa à l'intention de Henry James.
Voici mes 2 propositions subordonnées. Après avoir tenté sans succès malgré mes efforts de gravir le mont Whitney et étant retourné dans les plaines.
Le fait d'être le seul à rire dans la pièce ne semblait pas diminuer la gaieté de King. En le regardant attentivement, James vit pourtant qu'il était habité par une profonde amertume, un sentiment issu de l'intérieur de son être, telle l'humidité décrite par Charles Dickens montant des tombes sous une vieille église au point de faire frissonner de froid tous les paroissiens.
Alors que j'étais jeune, en bonne forme physique, bien équipé, désireux d'accomplir de grandes choses,
reprit King.
Non seulement je n'ai pas réussi à gravir plus de 120 mètres lors de ma première tentative, mais à la deuxième, je me suis trompé de montagne. Dans l'effort de l'ascension, je suis passé à côté d'une montagne entière. Une montagne de 4200 mètres de haut. Mais vous avez fini par y retourner et vaincre le sommet.
Dit gentiment John Hay.
Oui, mais d'autres ascensionnistes m'avaient précédé, alors que c'était moi qui avais nommé cette montagne.
Votre nom a été donné à une autre, fit remarquer Holmes. Mount Clarence King, au nord-ouest du mont Whitney, dans la Sierra Nevada, je crois.
Dans notre groupe d'explorateurs, nous aimions bien baptiser les pics du nom les uns des autres,
dit King, tendant son verre pour que le domestique puisse le remplir de Xérès.
Il s'appelle Mount Clarence King parce qu'il existait déjà un sommet dans la région portant le nom du prédicateur Thomas Starr King. Ma montagne culmine à 3933 mètres. Je fais toujours figure d'avorton. Allez savoir pourquoi. Quelle était l'altitude de ce col que vous avez franchi pour aller du Sikkim au Tibet, monsieur Sigerson?
La Djelepla? 4270 mètres, répondit Holmes. King se mit alors à interroger Sigerson Holmes sur sa pratique de l'alpinisme. Ce fut un feu roulant de questions. Holmes répondit promptement et succinctement à chacune, prouvant qu'il comprenait au moins les termes. À un moment, quand il l'interrogea à son tour, Clarence King rit et avoua qu'il avait passé les 2 dernières décennies à creuser dans et sous les montagnes, pas à les gravir. James ne put que noter les mots mystérieux qui remplissaient l'air. Relais, méthode d'assurage, rappel, corde de rappel, ancrage haut et bas, ramonnage, nœud autobloquant, dévissage. James était perdu, mais Holmes donnait l'impression de tout saisir. Enfin, Clarence King soupira.
Eh bien, je laisse les montagnes à la jeune génération de grimpeurs. L'époque où j'avais ma place dans la cordée est révolue, hélas.
Au lieu de laisser cette dernière remarque assombrir l'humeur générale, John Hay dit à King
« Je suis sûr qu'Adams sera terriblement navré de vous avoir manqué. J'espère bien. »
marmonna King en tendant de nouveau son verre.
« Vous devriez raconter à nos autres invités comment vous vous êtes rencontrés tous les deux. »
ajouta Hay. L'espace d'une minute, Clarence King parut se demander si l'histoire valait la peine d'être contée, puis il vida son verre de Xérès et se tourna vers Holmes.
« Vous n'avez pas encore fait la connaissance d'Adams, n'est-ce pas, monsieur ?»«
Je n'ai pas eu cette chance, en effet. » King grommela.
« Il y a très longtemps, en 1867, comme je ne trouvais pas de travail honnête, et que je n'étais pas très désireux de le faire, » j'ai convaincu le Congrès de créer une mission d'étude du 40e parallèle et de m'en nommer responsable. En 1873, j'étais en route pour Long's Peak, dans le territoire du Colorado, pour rejoindre l'un de mes collègues, un certain Arnold Hagg. Êtes-vous familier de Long's Peak, Monsieur Sigerson ?
Non, répondit Holmes.
C'est l'un des fameux sommets américains de plus de 4000 mètres. 4295 mètres, si mes souvenirs sont exacts. Qui porte le nom du lieutenant Long de l'expédition de Zebulon Pike. Il se trouve au point le plus oriental de la chaîne des montagnes rocheuses, ce qui n'est d'aucune utilité à mon histoire.
James sourit. Il avait presque oublié que Clarence King possédait la faculté de laisser son récit serpenter tel un ruisseau de montagne sans impatienter son auditoire. James s'était souvent demandé pourquoi ce don trouvait rarement sa traduction dans la page écrite.
Bref, ayant seulement atteint la vallée d'Estes Park au coucher du soleil ce soir-là, je me suis arrêté dans un petit refuge pour y passer la nuit. Il disposait d'un lit, mais pas d'un poêle, et la nuit était froide. Je frissonnais sous toutes les couvertures que j'avais apportées, quand j'ai entendu du bruit dehors. Je suis sorti avec une lanterne et j'ai vu Monsieur Henry Adams monter sur une mule. Je ne sais pas lequel des deux, de lui ou de sa monture, paraissait le plus soulagé d'avoir trouvé un habitat humain. Henry venait de terminer sa première année en tant que professeur assistant d'histoire à Harvard et s'intéressait depuis peu à la géologie, après avoir écrit un article sur le géologue britannique Charles Lyell pour la North American Review. Un ami lui avait suggéré d'aller passer l'été dans l'Ouest pour voir le travail de notre mission d'étude, et c'est ce qu'il avait fait. Il s'imaginait, je suppose, que notre travail topographique comprenait de la géologie. Il se trouve qu'Adams avait connu Arnold Hagg à Boston et qu'il traînait dans son appartement de Long's Peak quand il avait décidé de monter sur un mulet pour partir en exploration. Évidemment, il s'était perdu, mais il avait eu la bonne idée de lâcher la bride à la mule. S'il existe un moyen sûr de trouver de la nourriture et la civilisation, c'est de laisser faire une mule affamée. Et c'est ainsi qu'il est arrivé devant mon petit refuge d'Estes Park vers 10 heures du soir. »
À ce moment, Clarence King sourit et James s'aperçut que John et Clara Hay souriaient aussi, anticipant la chute de la petite histoire.
« J'avais déjà croisé Henry à l'occasion, une fois à Washington et une autre à Cheyenne une semaine plus tôt. Mais je ne le connaissais pas assez pour mériter l'étreinte géante dont il m'a gratifié quand il a mis pied à terre. Il avait faim et devait commencer à s'inquiéter. Quoi qu'on soit en août, la nuit était glaciale. Il arrive qu'il neige à Estes Park en cette saison. Après avoir partagé quelques haricots froids, nous nous sommes donc glissés tout habillés dans l'unique lit du cabanon, et nous avons parlé presque jusqu'à l'aube. Depuis ce jour, nous sommes amis intimes. « Adams sera tellement désolé de ne pas vous voir, »
répéta John Hay.
« Hélas, je dois me rendre à cette mine d'argent au Mexique, ou retourner chercher de l'or dans les Sierras, si je veux offrir la compagnie d'un constable à mes Turner. »
John Hay sourit à Holmes.
« Harry connaît cette histoire, mais elle vaut la peine d'être répétée. Il y a quelques années, Clarence était en Angleterre, où il achetait des œuvres d'art, entre autres choses, et Ruskin vendait deux magnifiques Turner. Lorsqu'il a demandé à King lequel il voulait, Clarence a acheté les deux, disant « Un beau Turner en mérite un autre. »
King sourit tristement.
« À cette époque, je m'achetais des Turners. Aujourd'hui, j'en suis réduit à me présenter au dîner chez mes meilleurs amis dans un vieux costume de voyage en velours côtelé.
Comme dit le capitaine Achab avant que Moby Dick ne fasse chavirer le Pécode, c'est ainsi que je rends les armes. »
Quand Holmes leva un sourcil curieux, John Hay expliqua.
« C'est un roman sorti il y a plus de 40 ans et passé relativement inaperçu des lecteurs et des critiques. Mais Clover nous l'avait recommandé et nous tous, membres des Cinq de Cœur, l'avons aimé et y faisions souvent allusion. C'est l'histoire d'Achab, le capitaine d'un baleinier, qui devient obsédé par une baleine blanche qui lui a pris ses jambes des années plus tôt.
L'attitude d'Achab à l'égard de cette baleine est devenue mon attitude à l'égard de la vie en général, »
dit Clarence King.
Quelle attitude ? Demanda Henry James.
Je suis aux prises avec toi jusqu'au dernier instant, du cœur de l'enfer je te frappe, au nom de la haine je crache contre toi mon dernier souffle. »
récita King, adoucissant la violence de la déclaration par un doux sourire enfantin. Clara Hay, qui avait quitté le salon quelques minutes plus tôt, revint alors, affichant un sourire radieux.
« L'émissaire Elmer Alvorson Volbach, Madame Volbach et leur fille sont arrivés. Il fait chaud et on étouffe ici, alors pourquoi n'emporterions-nous pas nos verres dans le jardin d'hiver ? Le cuisinier m'assure que le dîner sera prêt dans moins d'une heure. »